Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission de samedi. Place à vos lettres et courriers dans notre rubrique bimensuelle consacrée à vos remarques et questions, chers auditeurs. Nous entendrons ensuite la deuxième partie d'un entretien que l'écrivain Marek Alter a accordé à Radio Prague à l'occasion de la sortie d'un de ses romans tchèques. Mais tout de suite, on commence par notre rubrique culture. Souvent, lorsque nous rencontrons des Français installés depuis longtemps à Prague et qui ont développé une activité quelconque, qui se sont créés des racines dans le pays, au point même de parler tchèque, par exemple, bref, des personnes engagées dans la vie tchèque à part entière, souvent nous les interrogeons sur les différents aspects de cette vie-là. Il n'est pas si fréquent d'avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un qui y a passé près d'une dizaine d'années et de la réinterroger sur ses activités et sur le bilan qu'il tire de son séjour pragois. C'est pourquoi je vous propose de rencontrer à nouveau Fred Schindel, artiste verrier avec lequel nous avons eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises et qui s'apprête à quitter Prague. Il nous a d'abord rappelé comment il était arrivé au vitrail.
Culture sans frontières.
En fait, c'est une visite, un coup de foudre que j'ai eu en visitant le musée de Cluny à Paris, où j'ai pu voir de très près des pièces d'art qui date du XIIIe ou XIIe siècle, et notamment de la Sainte-Chapelle. Et donc, en voyant la finesse du travail, et un travail qui était invisible à l'œil nu, parce que c'était des pièces perchées à 15 mètres ou 20 mètres de haut, je me suis dit, ça donnait tellement de vertige, je me suis dit, tiens, ça, c'était quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai fait un parcours un peu atypique, parce que j'ai fait plutôt en autodidacte, plus ou moins.
Ça fait 9 ans que vous êtes installé ici à Prague, hein. Cette fin d'année 2012, c'est un peu une boucle qui se referme. On en reparlera peut-être tout à l'heure puisque vous allez quitter Prague. Mais quand vous êtes arrivé il y a 9 ans, vous avez donc commencé par travailler dans un autre atelier avant de fonder le vôtre, en fait. Quelle a été votre première approche, j'allais dire, de Prague et du patrimoine pragois, en termes en tout cas de vitrail? Et quelles étaient un petit peu, comment est-ce que vous pourriez peut-être comparer les traditions françaises, espagnoles, puisque vous connaissez également Barcelone, et la tradition tchèque dans le travail du vitrail?
Comme Prague, c'est un télescopage de différentes époques ici. On a vraiment toutes les époques qui sont représentées depuis le roman jusqu'au l'Art nouveau. Et donc, au niveau du vitrail, en tout cas, il y a des filiations entre les différentes villes, les différents pays. Donc, j'ai tendance à lier Barcelone à Prague parce que au niveau du donc l'Art nouveau pour Prague et le Modernismo à Barcelone, parce qu'elles sont vraiment, il y a eu le même mouvement, ça a été créé dans les mêmes conditions, oui, politiques et économiques, etc. Mais sinon, après, il y a quelques vestiges gothiques et un petit peu romans, donc à Prague, mais très très succincts parce que la plupart du patrimoine a été détruit lors des guerres hussites. Donc on a là des filiations avec justement la France ou l'Allemagne, où il y a vraiment des pièces gothiques qu'on a d'ailleurs sous les yeux, qui sont au musée du couvent Sainte-Agnès et au musée des arts décoratifs aussi, vraiment quelques rares pièces. Et donc c'était pas un uppercut, mais c'était vraiment très très fort, parce qu'il y en a de partout en fait. Et plus ça va, plus ça se déroule un petit peu, Prague, pour ceux qui connaissent depuis quelques années, pour un long séjour, je pense qu'ils auront une impression similaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on va creuser un petit peu et c'est sans fin en fait.
Justement, puisque vous parlez de gens qui viennent visiter Prague, vous commencez sans doute à bien connaître la ville. Quand on fait des visites de Prague, on fait des visites très chronologiques ou historiques ou par quartier, etc. Si on devait faire une visite justement thématique Prague à travers le vitrail, est-ce que vous sauriez donner quelques idées d'endroits comme ça au fil de la ville à voir absolument?
En fait, pour tout vous avouer, je fais une visite thématique sur les vitraux. Alors c'est surtout la vieille ville et la nouvelle ville. Et en fait, le parcours, pour se situer géographiquement, ça part de ou du couvent Sainte-Agnès, justement, ou alors de l'autre côté, au musée national. Et en fait, on fait un parcours au travers des rues, des passages, énormément, parce que les passages pragois sont aussi un patrimoine très important, même s'il a été très, enfin, assez entamée. Il y a beaucoup de passages qui ont disparu, mais on trouve il y a beaucoup de surprises à travers les rues et les passages. Et j'étais très fier d'avoir pu faire découvrir à des vieux Tchèques leur propre patrimoine du côté de Achtalska, justement, près de l'ancien atelier où je travaillais, où il y a des vitraux magnifiques. Il y en a un qui représente une espèce de tournesol avec une porte, avec un arc outrepassé.
Ça, c'est un bâtiment à nouveau, hein.
Voilà, c'est un bâtiment nouveau qui est incroyable, et c'est un des plus spectaculaires, un vitrail très monumental, en fait, de cette partie de la ville. Donc on a, voilà, si on prend en gros la ceinture qui fait, alors je prononce un français qui vit mais qui parle mal, donc il y a Nalonie Cheda d'abord, on va continuer sur Napchikopye. Non, ça c'est un peu le cauchemar à prononcer. Et après, on arrive sur Revolutionary. Donc ça fait la frontière entre la nouvelle et l'ancienne ville de Prague.
On parlait du vitrail dans l'art nouveau, hein, ça fait partie des vitraux historiques les plus proches de nous dans le temps. Quelle est la place du vitrail aujourd'hui? Est-ce que le vitrail a une place dans notre quotidien, le nôtre, celui du XXIe siècle?
Ben, en fait, de plus en plus, même si la notion, la définition de vitrail change, parce qu'en fait, quand on parle de vitrail, on pense souvent au plomb associé au verre, mais différentes techniques artistiques ont développé cet aspect décoratif, on va dire. Donc on a la technique qu'on a qualifiée de Tiffany, parce que c'était l'inventeur, celui qui a développé ça s'appelait Louis Comfort Tiffany, c'était le fils du joaillier. Et en fait, il a développé la partie, au lieu d'utiliser du plomb, enfin, complément du plomb plutôt, il va utiliser du cuivre, ce qui va permettre de nuancer la structure, la composition du vitrail. Mais après, il y a beaucoup de nouvelles techniques qui sont apparues, notamment le fusing, donc qui consiste à faire fondre des verres entre eux et faire des espèces de cabochons. Donc on va utiliser soit du thermoformage, c'est une autre forme de fusing, de fusion du verre. Et donc, notamment, il y a des foyers très importants de création en Allemagne, où il y a vraiment des choses importantes qui sont faites là-bas. En France, je ne suis pas un spécialiste du vitrail contemporain, mais je sais qu'il y a pas mal d'expériences qui sont faites aussi bien en Europe, en Asie, et aux États-Unis aussi, au Canada. Il y a énormément de choses qui sont faites.
On constate que dans l'histoire de l'art, de nombreux peintres, grands peintres, hein, se sont attaqués au vitrail. Alors je pense à Marc Chagall à Metz, le peintre Joseph Schimma en France, également dans une église, et puis également alors Alphonse Mucha, dont on peut voir justement un des vitraux ici à la cathédrale Saint-Guy à Prague. Comment expliquez-vous ce besoin justement de peintres dont finalement la matière première n'est pas le verre, hein, de justement d'aller toucher à cet art quand même très différent de la peinture, hein.
Alors, la raison principale, à mon avis, même si ça ne va pas être le même mouvement pour chaque, mais je pense que c'est vraiment la quête de la lumière et d'explorer justement la troisième dimension qu'on n'a pas avec le support papier ou enfin, canevas. Et je pense que pour avoir travaillé dans l'atelier que vous avez évoqué tout à l'heure, avec le fondateur s'appelait Joseph Ježiška, avec le fameux R tchèque imprononçable, il a travaillé avec. Il a fondé son atelier parce qu'il a collaboré avec Max Chabinski. Donc il a vraiment travaillé ensemble, ils ont travaillé ensemble, et Max Chabinski a fait des essais pendant quelques mois pour tester justement les effets du passage au carton, on va dire, le carton, donc l'esquisse, le projet sur papier, à la dimension du verre, le passage avec la transparence. Et donc c'est une dimension, moi j'appelle ça le vitrail l'art vivant, parce que selon la lumière du jour, de la nuit même, on peut avoir vraiment des effets, même le soir. On peut avoir à travers la matière, des verres comme le verre opaline, le verre vit sa vie après. Je pense que l'artiste, quand il va travailler sur un thème, il va pouvoir avoir cette impression de ne pas tout contrôler. Alors je pense que ça va être un peu à double tranchant, mais je pense que ça peut être comment dire, assez enivrant, peut-être. Donc il y a Chagall, effectivement, il y a Chabinsky, justement, qui a travaillé à la cathédrale. À la cathédrale, il y a vraiment pour nommer les artistes tchèques, il y a Kysela, František Kysela, il y a Cyril Bauda, et Zvolinski aussi, je ne sais plus son prénom, j'ai oublié. Donc après, il y a Blechtova, qui a travaillé aussi à l'époque plus moderne, fin des années 60. Donc il y a vraiment des artistes qui ont exploré différentes techniques justement de vitrail.
Pour terminer, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une boucle qui se referme. Vous terminez votre passage de 9 ans à Prague, puisque vous partez à la fin de l'année 2012. Quel bilan un peu tirez-vous de ces années passées ici à Prague? Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté justement dans votre pratique au quotidien?
Alors ça a été une grande, grande ouverture, ça m'a apporté vraiment de l'ouverture d'esprit concernant le vitrail, parce que moi je suis venu au vitrail grâce au 13e, 12e, 13e siècle, donc c'est vraiment une époque très spécifique, et petit à petit, donc il y avait un petit peu Barcelone avant Prague, mais Prague a été vraiment l'exploration de la période moderne, donc ça a été à travers... Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que Prague, c'est tout azimut. C'est vraiment à travers l'architecture, à travers la peinture, même la musique. Parce que moi, je sais que j'ai fait un paravent. J'ai essayé de retrouver un petit peu comment dire, l'atmosphère de l'époque Art Nouveau, où tout était sujet à art, à créer de l'art. Donc, comme c'était le cas à Barcelone, encore une fois, où ici, on a tous les supports, que ce soit la poignée de porte jusqu'au meuble, jusqu'à la chaise, tout a été pensé et réfléchi pour apporter de l'art dans la maison. Et donc cette dimension-là, j'ai pu un peu l'approcher, et notamment avec mon premier paravent qui était consacré à Rusalka. Et en fait, j'ai là aussi a eu un autre coup de foudre en voyant l'opéra de Dvorak, où il y a l'ode à la lune, qui a été pour moi une grande inspiration pour mon premier paravent. Voilà. Donc ça a été, par exemple, comment dire, un des liens que j'aurai, qui resteront très forts. Et encore une fois, c'est un départ, mais ça ne signifie pas que je ne reviendrai pas un jour, parce que c'est vraiment une ville je pense qui se laisse explorer, et ou qui se laisse ou qui demande à être exploré à différentes époques, je pense, de sa vie.
Ces derniers temps, vous avez été nombreux à nous adresser des lettres ou des cartes postales avec des vœux de Noël et des souhaits pour la nouvelle année 2013. Alena Gebertova et Václav Richter vont vous en présenter quelques extraits.
Courrier des auditeurs.
Place d'abord à la lettre qui nous est parvenue de Belgique de la part de M. Bernard Loblic et dans laquelle nous avons pu lire.
Bonjour à tous, tchécophiles francophones et francophiles tchèques. Ce petit message pour vous remercier du travail superbe que représentent les émissions de Radio Prague en français. Moi qui souhaite être au courant de ce qui se passe dans ma deuxième patrie, je lis toujours avec beaucoup de plaisir et d'attention les nouvelles que je reçois chaque jour de chez vous. Je n'ai qu'un regret, c'est que je n'ai pas trop l'occasion de vous écouter, si ce n'est de temps à autre. Mais bon, la lecture quotidienne des nouvelles du site en général est déjà un plaisir quotidien que je prends le temps de savourer. En cette période de presque fin d'année, j'aspire déjà à revenir voir la Vltava et tous les coins pragois que j'aime fréquenter avec mes amis tchèques. Malgré mes nombreuses visites, il me reste encore tellement de choses à voir dont je prends notamment connaissance grâce à vos émissions. Encore merci à toute l'équipe.
Nous apprécions beaucoup, cher ami, l'intérêt que vous portez à nos émissions ainsi que les sympathies que vous éprouvez à l'égard de notre pays. Nous sommes impatients de vous revoir bientôt à Prague et de pouvoir à nouveau discuter avec vous. Merci également pour le message chaleureux qui nous a été adressé par M. Roger Roussel du Canada, tout comme pour les vœux qui ont été formulés par notre auditrice algérienne, Mme Myriam Sabine Ambran.
Voici dans quelques jours la nouvelle année 2013. Je viens, par le présent email, vous adresser à cette occasion mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une bonne et sainte année ainsi qu'une bonne santé. Que ces 12 nouveaux mois de 2013 nous permettent d'apprécier encore la qualité et le charme d'échanges cordiaux.
Nous avons également apprécié le message qui a été envoyé à Radio Prague par M. Abdelhamid Jebari, lui aussi d'Algérie. M. Philippe Aubre nous a envoyé comme d'habitude un rapport d'écoute accompagné de quelques remarques dont voici quelques-unes.
Je suis friand du gibier, donc je ne peux m'empêcher de débuter par les sangliers qui sont irradiés et donc impropres à la consommation. Quoique le braconnage soit interdit par ici, dans nos restaurants traditionnels, nous consommons beaucoup de viande de brousse. Alors, en apprenant cette nouvelle, je pense automatiquement au gâchis. Il y a 20 ans, les Tchèques et les Slovaques se séparaient. Toutefois, les relations sont très bonnes au point que la visite du président slovaque est une illustration parfaite. Après tout, il n'y a jamais eu d'anciens frères. Même s'il y a des divergences, la consanguinité demeure. Je profite de cette occasion donc pour vous demander quelles sont les relations entre les familles, puisque je reste persuadé que certains Slovaques sont restés sur le territoire tchèque et vice-versa. Qu'en est-il exactement des rapports entre les familles ?
Eh bien, dès la partition de l'ancienne Tchécoslovaquie survenue il y a aujourd'hui 20 ans, les relations entre les deux pays, la République tchèque et la Slovaquie, sont restées amicales et chaleureuses. C'est d'autant plus vrai pour les familles mixtes qui sont très nombreuses des deux côtés de la frontière. Je rappellerai que le tchèque et le slovaque sont deux langues très proches, ce qui permet aux deux populations d'utiliser pour la communication mutuelle leur propre langue et de se comprendre. Notre fidèle auditeur ivoirien nous a également envoyé quelques images de son congé sur les côtes bassamoises où il venait de se rendre. Merci pour cet aperçu de mer, de sable et soleil qui nous a fait du bien en cette saison d'hiver. Dans une lettre présentée dans le dernier courrier des auditeurs diffusé il y a 15 jours, M. Gérard Arex de France a exprimé son admiration pour le grand compositeur tchèque Antonín Dvořák. Récemment, il nous a envoyé à ce sujet une précision. La voici.
D'abord, merci d'avoir parlé de mon amour musical pour Dvořák dans votre radio. Quand j'ai dit qu'on m'avait refusé l'autorisation de diffuser Dvořák, ce n'est pas votre pays. Je n'en veux pas aux Tchèques. Au contraire, heureusement que le compositeur Patrick Langlade m'a offert sa symphonie pour rendre hommage à Dvořák. Sinon, j'étais bloqué à vie. Si Dvořák était encore vivant, je suis sûr qu'il aurait accepté de me prêter sa magnifique musique pour mon texte.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Il ne me reste qu'à remercier tous ceux qui nous ont écrit et que nous avons eu le plaisir de citer dans ce programme et à vous inviter à participer en grand nombre à la préparation du prochain rendez-vous autour de votre courrier, le dernier de cette année 2012. Et comme à chaque fois, nous vous invitons à tester vos connaissances sur la République tchèque grâce à notre concours qui vous propose chaque mois une nouvelle question. La question du mois de décembre est la suivante.
En quelle année a été fondé Karlštejn, le plus célèbre des châteaux tchèques qui devait abriter les joyaux de la couronne?
Parmi les bonnes réponses, 6 vainqueurs seront tirés au sort et recevront un prix. Envoyez vos réponses avant la fin du mois à l'adresse suivante ser@radio.cz.
Dans la rubrique littéraire, Václav Richter vous invitera à l'écoute de la deuxième partie de sa rencontre avec l'écrivain Marek Alter, artiste qui peut être considéré en quelque sorte comme la mémoire vivante du peuple juif et qui a puisé son inspiration entre autres dans l'histoire et les légendes de Prague.
Rencontre littéraire. C'est pour présenter la traduction tchèque de son livre « Le kabbaliste de Prague » que l'écrivain Marek Alter a visité les 5 et 6 décembre 2012 la capitale tchèque. Dans un entretien qu'il a accordé à cette occasion à Radio Prague, il a été question de son livre inspiré par l'histoire et les légendes pragoises, mais aussi d'autres œuvres de cet auteur français né en 1936 à Varsovie, parmi lesquelles la saga « La mémoire d'Abraham ». Marek Alter, fondateur et président du comité pour la paix négociée au Proche-Orient, et initiateur des premières rencontres entre Israéliens et Palestiniens, a évoqué également ses activités en faveur de la paix. Voici la deuxième partie de cet entretien. L'histoire du peuple juif à travers les continents est un des grands thèmes de votre œuvre littéraire. Dans votre livre « La mémoire d'Abraham », vous évoquez l'histoire d'une centaine de générations d'une famille juive qui est la vôtre depuis le début de notre ère jusqu'au XXe siècle. Quelle est la part de la réalité et de la fantaisie dans ce livre ?
Vous savez, on n'invente jamais rien. Il y a toujours des gens avant vous. C'est comme ça. Et on ne sait jamais qui était le premier. Il y a une littérature, ce que j'appellerais épique, qui essaie de reproduire l'histoire et en injectant l'imaginaire, les personnages imaginaires, la rend cette histoire universelle. D'abord, c'était la Bible, bien sûr. Voyez. Donc, j'appartiens à cette catégorie. Alors, je suis parti d'une légende familiale. Ce n'est pas sûr qu'il y avait un rouleau qui a traversé de génération en génération. Mais je savais, et on me disait depuis que je suis tout petit, que nous sommes peut-être une des plus anciennes familles d'imprimeurs juifs. Et en effet, j'ai trouvé les traces d'un Alter, Gabriel Alter, qui a travaillé avec Gutenberg. Et à partir de là, j'ai suivi toutes les publications des descendants de ces Gabriel Alter. Et imaginez-vous que j'ai découvert ensuite une imprimerie de mes ancêtres à Soncino en Italie, dans la vallée de Pau, où il y a une maison de cette famille d'imprimeurs juifs. Donc c'est là où l'imagination d'un écrivain s'introduit. Donc autour des histoires vraies, j'ai brodé 900 pages de l'histoire d'une famille juive, en réalité des peuples juifs, depuis la destruction des temples par Titus, il y a en 70 de notre ère, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes parents.
Pour le pape Jean-Paul II, la mémoire d'Abraham était le livre de réconciliation. Avez-vous eu l'intention, en écrivant ce livre, de contribuer à la réconciliation judéo-chrétienne ?
Non, je n'ai pas pensé à ça. Non, je n'ai pas pensé, j'avoue. Le pape Jean-Paul II, je l'ai connu par hasard. Nous sommes devenus très proches parce que l'ambassadeur de France auprès du Vatican à l'époque était Xavier de la Chevalerie. Et quand mon livre « La mémoire d'Abraham » est sorti en Italie, et je lui ai demandé de transmettre de ma part un exemplaire au pape. Et du coup, le pape a voulu me connaître. C'était une rencontre forte pour moi. Il m'a pris dans les bras et on s'est embrassé. Et je crois qu'en ce moment, il s'est passé quelque chose entre nous. Vous savez, dans la relation entre les hommes, c'est aussi celle. La même chose qui est la relation entre l'homme et Dieu. Il se passe ou il ne se passe rien. Et à partir de là, on avait une tradition de déjeuner ensemble tous les mois. Et quand il avait lu, il m'a envoyé un petit mot. Et du coup, mon éditeur a reproduit ce petit mot sur la nouvelle édition de mon livre. Voilà.
Et depuis de longues années, vous luttez pour la paix au Proche-Orient. Après tant d'années d'efforts, constatez-vous un certain progrès, un changement positif dans la situation au Proche-Orient et de la diaspora juive dans le monde ?
J'aurais tendance à dire non, bien sûr. Mais ce n'est pas vrai. Les choses, malgré tout, avancent. Bien sûr, on avait signé la paix. Rabin, Yitzhak Rabin, a été tué. J'ai pleuré, je suis allé à son enterrement, c'est tout ce que je pouvais faire. Et il fallait recommencer tout à nouveau, ou presque à nouveau. Sadat, c'était un ami. Sadat a été tué, je pleurais à nouveau. Parce que la paix entre les hommes dépend des hommes. Si ces hommes de paix sont tués, il faut trouver d'autres hommes pour les remplacer. Sauf qu'eux, ils ont déjà existé avant. On ne commence pas à zéro, c'est ça qui est important.
En 1967, vous avez fondé et présidé le Comité international pour la paix négociée au Proche-Orient. Et vous avez été aussi à l'origine des premières rencontres entre Israéliens et Palestiniens. Vous connaissez donc cette problématique. Comment voyez-vous la résolution faisant de la Palestine un État observateur de l'ONU? Et c'est un changement important. Qu'est-ce que cela peut apporter à la Palestine, à Israël et à la politique internationale?
Nous vivons dans les symboles. Là, en réalité, ça ne change rien. C'est terrible à dire. Mais symboliquement, c'est important. Ils avaient droit d'être reconnus comme État. C'est comme ça, il n'y a pas de raison. Il y a Kosovo, 500 000 personnes, ils ont un État. Écoutez, c'est quand même la folie. Bon, c'est comme ça. Moi, si j'étais Benjamin Netanyahou, j'aurais envoyé un télégramme de félicitations à Mahmoud Abbas. Je lui aurais dit, bravo, je suis fier qu'il y ait aujourd'hui un État palestinien à côté. Maintenant, venez à Jérusalem, nous allons négocier la paix. Malheureusement, Netanyahou n'a pas le même courage que moi, mais moi, je ne suis pas Premier ministre d'Israël.
Et encore une dernière question que je pose souvent aux écrivains étrangers qui viennent en République tchèque. Quels sont vos livres que vous aimeriez encore présenter aux lecteurs tchèques, que vous aimeriez faire traduire en tchèque?
Vous savez, j'ai déjà signé pour 6 livres. Un petit livre qui va sortir l'année prochaine, un petit essai. J'ai repris les titres d'un livre de Jerry Rubin en 68, un étudiant à Berkeley, « Do it ». Je suis en train de faire un petit livre, je ne sais pas si ça va révolutionner le monde, qui s'appellera « Faites-le ». Faites-le. Vous êtes devant la télévision, vous vous indignez, vous n'aimez pas. Alors, faites quelque chose, faites-le. Ensuite, j'ai signé pour une trilogie. Comme vous savez, j'ai réhabilité les femmes de la Bible avec 3 livres.
Dont 2 ont été déjà traduits en tchèque.
Et puis là, j'ai fait faire une trilogie sur les femmes de l'islam. Les 3 femmes qu'ont fait l'islam. Cet islam, on ne respecte pas la femme aujourd'hui. C'est important. Il y a 1 milliard de musulmans. Disons 500 millions de femmes. Il faut leur donner les récits de leur propre histoire. Dans leur histoire, il y a Khadija, la femme de Mahomet. Elle était la première, la seule qui l'a soutenue. Sinon, il n'y aurait pas eu de Coran. Fatima, leur fille, qui est plus sainte aujourd'hui en Iran que Mahomet. Parce que c'est elle, la guerrière. C'est elle qui crée les schismes. Et puis Aïcha, la plus jeune, c'est elle qui est à l'origine des sunnites, l'autre partie de l'islam. Sunna veut dire tradition. Et dans les hadiths, dans les traditions, la moitié est écrite par elle. Donc voilà 3 femmes libres. Mon éditeur, avant de signer, m'a demandé si j'avais le courage parce que c'est dangereux. Bah, vous savez, la vie est pleine de dangers. Vous traversez la rue, vous pouvez être écrasé par une voiture. C'est la même chose. Mais je pense que d'abord, ce sont des histoires magnifiques. Donc sur le plan romanesque, c'est magnifique et utile. Et puis après, j'en ai d'autres. Donc tous ces livres, j'aimerais qu'on les lise en Tchéquie. C'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un pays non seulement des Kafka, des Werfel, etc. C'est quand même Beneš et Masaryk. Hein, ce sont des exemples pour la démocratie.
La fin de notre émission du samedi des dimanches. Retrouvez notre rubrique musicale qui sera consacrée à une rediffusion de notre rubrique consacrée au Kuzmich Orchestra. Cette émission a été présentée par Anna Kubishta. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.